Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour chers amis, nous commençons cette semaine avec la leçon numéro 10, donc du 28 février au 6 mars, avec le titre
« Le message des prophètes ».
Nous avons un verset à mémoriser.
Oui, ce verset se trouve dans l'épître de Paul à Timothée, chapitre 4 et verset 16, et il dit ceci « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, demeure dans tout cela, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. » Et quelques questions clés.
Pourquoi est-il nécessaire d'observer les commandements alors que nous sommes sauvés par la grâce ? Qu'est-ce que la purification du sanctuaire céleste ? En quoi le commandement sur le sabbat diffère-t-il des autres commandements ? Que se passe-t-il à la mort ? Et pourquoi est-il important de le savoir ? Qu'enseigne la Bible sur la façon dont le Christ reviendra ?
L'ensemble doctrinal de l'Église adventiste du septième jour a surtout été l'œuvre d'un petit groupe de pionniers consacrés qui se réunissaient pour étudier la Bible et prier avec ferveur. En 1904, plus d'un demi-siècle après ces événements, Ellen White avait toujours un souvenir très vivant de ces rencontres. « Nous restions, dit-elle, souvent ensemble, tard dans la nuit, parfois toute la nuit, priant pour obtenir des lumières et étudiant la parole. »
Donc tiré d'Ellen White, parfois, quand ils ne pouvaient aller plus loin, Ellen White leur donnait les réponses qui lui étaient communiquées en vision, même si elle-même n'a jamais formulé de doctrine. Sa vision n'avait pas pour but de prendre la place de la foi, de l'initiative personnelle, d'un travail ardu ou de l'étude de la Bible. Il est très important de se rappeler que les doctrines de notre Église sont uniquement basées sur la Bible. Elle ne découle pas des écrits d'Ellen White, même si celle-ci a contribué à la clarification de certaines d'entre elles.
Voici la première journée de cette semaine, le dimanche 1er mars 2009. Et là, nous aurons cette journée, le titre suivant.
La justice par la foi.
Et nous allons voir quel est le lot commun des êtres humains, quel est l'unique remède à cette condition. Et pour cela, nous avons trois textes. Enfin, ils sont situés dans l'épître de Paul aux Romains. Tout d'abord, chapitre 3, nous lirons les versets 21 et 22.
Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Nous continuerons au verset 23 à 24.
Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Notre texte tiré de l'épître aux Romains, chapitre 5 et le verset 12.
C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
Le péché est le plus grand problème auquel nous soyons confrontés. Les Égyptiens, eux, croyaient que c'était la mort. C'est pourquoi ils ont développé l'art de momifier les morts et construit de vastes pyramides pour les conserver. Les philosophes grecs pensaient, eux, que l'ignorance était le seul véritable ennemi du bonheur. Aussi mettaient-ils l'accent sur l'éducation. Mais le plus grand problème de l'humanité, en fait, c'est le péché.
Celui-ci détruit le bonheur et la paix du cœur. Le péché tue et aucun médicament actuel ne peut y remédier. Dès le jour de notre naissance, nous commençons à mourir. Le seul remède réside en Jésus-Christ et dans la croix. Aucune question ne nécessite d'être sondée avec autant de sérieux ou de façon aussi fréquente. Aucune question n'a ce point ancré dans les esprits que l'impossibilité pour l'homme déchu de mériter quoi que ce soit par ses propres œuvres. Le salut n'existe que par la seule foi en Jésus-Christ, dit Ellen White dans un de ses ouvrages.
D'après le poète grec Homère, les bateaux qui passaient par le détroit de Messine risquaient soit de se briser sur les rochers de Scylla d'un côté, soit de sombrer dans les tourbillons de Charybde de l'autre. De même, les chrétiens courent constamment le risque de tomber soit dans le légalisme, soit dans la grâce à bon marché. Certains pensent que parler de l'assurance du salut en Christ risque de conduire à une grâce à bon marché et à la tolérance pour les comportements pécheurs. Ils insistent donc sur l'importance de l'obéissance. D'autres croient que parler de l'obéissance et de la vie chrétienne victorieuse risque de détourner l'attention du Christ et de conduire au légalisme. Ils mettent donc l'accent sur le rôle de Dieu dans le salut.
Le chrétien équilibré, lui, aura l'assurance du salut en Jésus et aura le mode de vie du chrétien victorieux. Ces deux aspects sont indissociables, comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Celui que Dieu sanctifie, il le justifie également. L'un ne va pas sans l'autre. Nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi qui sauve ne vient pas seule. De bonnes œuvres l'accompagnent, même si elles ne peuvent nous justifier aux yeux de Dieu. Notre salut s'enracine uniquement dans ce que Jésus a fait pour nous.
En terminant cette journée, quelques lignes encore qui nous sont proposées à la méditation. Le fait que nous sommes acceptés uniquement grâce à ce que Jésus a accompli pour nous, et non en fonction de nos victoires ou de nos échecs, n'est-il pas une grande source d'espérance, une espérance qui nous permet de ne jamais abandonner le combat contre le péché et le moi? Et voilà cette journée du dimanche qui prend fin. Lundi 2 mars, et là il s'agit...
Le sanctuaire. Lisons quels étaient les différents services du tabernacle de l'Ancien Testament et en quoi ils étaient une illustration du plan du salut. Nous commencerons dans Hébreux 9, versets 1 à 2.
La première alliance avait des règles pour le culte et un temple terrestre. Une double tente avait été installée. Dans la première partie, appelée le lieu saint, il y avait le porte-lampe et la table avec les pains offerts à Dieu. Nous continuons avec les versets 3 et 4.
Derrière le second rideau se trouvait l'autre partie, appelée le lieu très saint, avec l'autel en or, où l'on brûlait l'encens, et le coffre de l'Alliance entièrement recouvert d'or. Dans le coffre où se trouvait le vase d'or qui contenait la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de pierre avec les commandements de l'Alliance. Continuerons versets 5 à 6.
Au-dessus du coffre se tenaient les chérubins qui signalaient la présence divine. Ils étendaient leurs ailes au-dessus de l'endroit où l'on offrait le sang pour le pardon des péchés. Mais ce n'est pas le moment de parler de tout cela en détail. Nous avons encore le verset 6. L'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres entrent jour après jour dans la première partie de la tente pour accomplir leur service. Et nous terminons avec les versets 7 et 8.
Mais seul le grand prêtre entre dans la seconde partie, et il ne le fait qu'une fois par an. Il doit y apporter du sang d'animal qu'il offre à Dieu pour lui-même et pour les fautes que le peuple a commises involontairement. Le Saint-Esprit montre aussi que le chemin du lieu très saint n'est pas encore ouvert aussi longtemps que subsiste la première tente.
À l'aide des services du sanctuaire, Dieu faisait comprendre aux pécheurs de façon visible et concrète ce qu'était le plan du salut. Confession, sacrifice, pardon, foi, réconciliation, sainteté. Tout cela se trouvait illustré de façon imagée par les rituels quotidiens ou annuels du sanctuaire.
D'après Hébreux 8, versets 1 à 2, Jésus exerce un ministère dans le sanctuaire céleste. En quoi consiste ce ministère et pourquoi est-il dit dans Hébreux 9, verset 23, que le sanctuaire céleste a besoin d'être purifié? Lisons ces versets.
Eh bien, tout d'abord, nous commençons avec Hébreux chapitre 8, les deux premiers versets.
Voici le point le plus important de ce que nous avons à dire. C'est bien un tel grand prêtre que nous avons, lui qui s'est assis dans les cieux, à la droite du trône de Dieu, la puissance suprême. Il exerce ses fonctions dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la tente véritable dressée par le Seigneur et non par un homme. Continuons dans Hébreux 9, verset 23.
Toutes les copies des réalités célestes devaient être purifiées de cette façon. Mais les réalités célestes elles-mêmes ont besoin de bien meilleurs sacrifices.
Dans l'Ancien Testament, le pécheur était pardonné par la foi dans le sang expiatoire de la descendance promise, qui était préfiguré par les agneaux sacrifiés lors des rituels du sanctuaire. Tout comme il y avait à la fin de l'année, dans le service terrestre, un jour des expiations ou jour de jugement, un jour le sanctuaire était purifié, il y aura aussi dans le sanctuaire céleste une période de jugement avant le retour du Christ.
L'instruction de ce jugement révélera à l'univers que ceux qui auront confessé le Christ sont ses véritables disciples. C'est comme si Dieu ouvrait les registres du ciel pour que tout l'univers constate que, dans chaque cas, sa décision est juste et équitable. En ce sens, ce jugement démontrera que Dieu fait preuve de justice en sauvant ceux qui auront cru en Jésus.
Dans Lévitique 16, l'élément clé qui apparaît sans cesse est le sang de ceux qui paraissent logiques, parce qu'il s'agit du jour des expiations et que seul le sang permet l'expiation. Et qu'est-ce que l'expiation sinon l'œuvre salvatrice de Dieu ? C'est pourquoi l'instruction du jugement est une bonne nouvelle. Elle est l'œuvre d'un Dieu qui nous sauve parce que nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes.
Il est vital de comprendre que, de même que le grand prêtre n'entrait jamais sous peine de mort dans le lieu très saint sans être chargé du sang versé, de même, nous non plus ne devons pas entrer en ce lieu sans nous réclamer du sang versé, sinon nous mourrons au lieu de bénéficier de l'expiation accomplie pour nous.
Réfléchissons à ces notions. Quelle espérance, quel encouragement nous communique-t-elle ? À nous qui vivons à l'époque de l'antitype du jour des expiations.
Eh bien, toutes ces questions demandent bien sûr réflexion, et c'est le but de cette étude. Et nous arrivons à la journée du mardi 3 mars 2009, et là c'est un sujet important puisqu'il s'agit...
Le sabbat.
Le sabbat et le mariage sont les seules institutions terrestres datant d'avant l'entrée du péché dans le monde. C'est pourquoi on les appelle parfois les frères jumeaux du paradis. Quand on observe le monde actuel, on constate sans peine que Satan a fait tout ce qu'il a pu pour les défigurer et les souiller. Et nous allons voir pourquoi le commandement du sabbat se démarque-t-il des autres commandements. Et nous allons trouver ceci dans le 20e chapitre d'Exode. Nous lirons tout d'abord les quatre premiers versets.
Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut, dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Continuerons versets 5 à 6.
Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Les versets 7 à 9 maintenant.
Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier.
Le verset 9 encore, oui.
Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Nous lirons les versets 10 à 11.
Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Nous continuons avec les versets 12 à 16.
Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Au verset 17.
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain.
Le 4e commandement est d'une certaine manière un commandement test. Il met à l'épreuve la spiritualité de l'être humain, parce qu'il concerne le temps et que le temps est un élément invisible. En opposition aux objets tangibles, il est un bon révélateur de l'attitude des hommes envers Dieu. Le ressenti face au sabbat est un indicateur du ressenti face à Dieu. C'est le seul commandement que l'on puisse enfreindre tout en restant quelqu'un de bien aux yeux de n'importe quelle communauté chrétienne conservatrice.
D'une certaine manière, le sabbat a un caractère arbitraire. Pourquoi le 7e jour et pas un autre? Parce que Dieu l'a décidé, c'est tout. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas convoiter, etc. Voilà ce qui paraît logique et évident. Il n'est même pas nécessaire d'être chrétien pour obéir à ses commandements. Beaucoup de non-chrétiens le font.
Mais respecter le sabbat du 7e jour, qui n'a de rapport avec aucun élément naturel, c'est obéir à Dieu pour la seule raison qu'il nous le demande. Observer le sabbat est un acte de foi. Nous respectons ce jour non pas parce que c'est socialement admis, non pas que c'est un jour populaire, non parce qu'il s'insère dans quelque cycle naturel, mais parce que Dieu nous le demande. Chrétiens du Nouveau Testament sauvés par la grâce, nous révélons notre foi par notre obéissance au commandement divin.
En fait, en cessant toute activité le sabbat, nous démontrons au monde que l'expression « se reposer en Christ » n'est pas seulement une formule consacrée. En tant qu'observateurs du sabbat, nous nous reposons véritablement dans l'œuvre de salut que le Christ a accomplie pour nous, non seulement chaque jour, mais aussi, et d'une manière toute spéciale, chaque semaine, manifestant de cette manière la pleine assurance que nous possédons en lui. Le respect du sabbat est ainsi l'un des signes extérieurs de notre repos en Christ. Et voici la fin de cette journée. Maintenant, le mardi 4 mars 2009, et là un sujet encore très important, il s'agit de
l'état des morts.
Et nous allons voir ce que disent justement quelques textes bibliques sur l'état des morts, ce qu'ils deviennent. et un premier texte tiré du livre des Psaumes, le chapitre 146e et le verset 4.
Son souffle s'en va, il retourne à sa poussière, et ce même jour, ses intentions périssent. Nous continuerons dans Ecclésiaste 9, versets 5 à 6.
Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et pour eux, il n'y a plus de salaire, puisque leur souvenir est oublié. Leur amour, leur haine et leur jalousie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Nous prenons maintenant l'évangile de Jean, chapitre 11, les versets 11 et 12.
Après ces paroles, il leur dit « Lazare, notre ami s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Nous continuerons au verset 13 à 14.
Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort ». Un autre texte que nous trouvons dans le livre des Actes, le chapitre 2 et le verset 34.
« Car David n'est pas monté dans les cieux ». Nous continuerons dans Matthieu 25, verset 46.
« Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Et enfin, nous prenons le livre de l'Apocalypse, le chapitre 14, et tout d'abord les versets 9 et 10.
Un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé 100 000 anges dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Maintenant le verset 11.
« La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont ni repos, ni jour, ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Nous avons maintenant un texte que nous vous proposons. Les textes inspirés enseignent que seul Dieu est immortel, et que les êtres humains, lorsqu'ils sont coupés de Dieu, sont exposés à la mort. Jésus enseignait que la mort était un repos qui s'achevait par l'une ou l'autre résurrection, une résurrection de vie ou une résurrection de jugement. C'est ce que reconnaît William Temple, archevêque de Canterbury, quand il écrit « L'être humain n'est pas immortel par nature ou de droit, mais il est apte à l'immortalité. La résurrection et la vie éternelle lui étant offertes s'il veut la recevoir de Dieu et selon les termes de Dieu. »
Comment comprendre des textes tels que Matthieu 25, 46 que nous avons lus avec Apocalypse 14, 9 à 11? Enseigne-t-il qu'il existe un enfer avec des tourments éternels? On retrouve la notion d'immortalité dans toutes les religions primitives, animistes et polythéistes. C'était également un important concept de la philosophie grecque dans laquelle Hadès, ou monde des morts, était un monde souterrain obscur et fantomatique, où l'âme menait une existence crépusculaire. Les Grecs pensaient que l'être humain se composait d'un corps matériel et d'une âme qui se séparait à la mort, l'âme étant libérée de sa prison matérielle pour jouir d'une existence indépendante.
Dans Matthieu chapitre 25 et dans Apocalypse 14, les mots traduits par « éternel » ou « à tout jamais » ne signifient pas forcément qu'il n'y a pas de fin. Les mots grecs « aion » et « ainios » exprime qu'il y a durée tant que l'élément qui dure le permet, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas consumé. Par exemple, dans le livre de Jude, chapitre 1 et verset 7, il est dit que les villes de Sodome et Gomorre sont soumises à la peine d'un feu éternel. Mais dans l'épître de Pierre, la deuxième, chapitre 2, verset 6, on apprend qu'elles ont été réduites en cendres.
Quand ces mots caractérisent la vie des rachetés qui recevront l'immortalité, ils évoquent une durée infinie. Mais quand il s'agit du châtiment des méchants, qui ne recevront pas l'immortalité, ces mots désignent une période limitée dans le temps. La pensée pour terminer est celle-ci. Entre les prédicateurs populaires et les films à succès, le monde est inondé par le spiritisme, donc qui est une notion selon laquelle les morts poursuivent leur vie sur un autre plan d'existence. Comprendre l'état des morts ne nous protège-t-il pas puissamment de cette terrible illusion ?
Eh bien, c'est une question importante et il faut y réfléchir à l'aide de la Bible qui nous enseigne à ce sujet et qui nous donne de grandes vérités à ce sujet. Maintenant à la journée du jeudi 5 mars 2009. Et là, nous allons étudier le...
Retour de Jésus.
Le retour de Jésus. Depuis le début des années 70, le livre de Hal Lindsey, The Late Great Planet Earth, la dernière grande planète Terre, s'est vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. Ces dernières années, une autre série, qui s'intitule Left Behind, s'est également écoulée à des millions d'exemplaires. Ces faits montrent bien qu'il y a chez de nombreux chrétiens le sentiment que nous sommes au temps de la fin.
Le terme adventiste, qui fait partie du nom de notre Église, implique que nous croyons tellement au retour du Christ que cette notion fait partie de notre identité. Pourtant, la façon dont nous comprenons ce retour est bien différente de celle évoquée par la fameuse série Left Behind ou par le Late Great Planet Earth de Hal Lindsey.
Voilà, eh bien nous allons maintenant voir ce qu'enseigne la Bible sur la façon dont se produira le retour du Christ et pourquoi est-il vital de le savoir. Contre quelles illusions Jésus nous a-t-il mis en garde à ce sujet? Eh bien voyons ces textes-là. Et tout d'abord un premier texte tiré du livre de l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, le verset 5. Matthieu 24, verset 5.
Car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Nous continuerons du verset 24 à 26.
Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes, ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire si possible même les élus. Je vous l'ai dit, je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert, n'y allez pas », « Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. » Verset 27 d'abord, puis ensuite le verset 30 et 31.
« En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Verset 30 et 31 maintenant. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, » avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Nous continuerons au chapitre 1 d'Apocalypse, verset 7.
Voici qu'il vient sur les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen.
Introduite tout d'abord par John N. Darby au XIXe siècle, l'idée d'un retour du Christ en deux étapes séduit, de nos jours, de nombreux protestants. La première phase consisterait en un enlèvement secret des chrétiens véritables par le Christ, la seconde verrait le Christ réapparaître 7 ans plus tard pour gouverner la terre pendant 1000 ans.
Les adventistes du septième jour n'ont pas trouvé de texte biblique appuyant un retour de Jésus en deux étapes, celui de l'enlèvement puis celui de l'apparition. D'après le Nouveau Testament, le retour de Jésus sera un événement unique, littéral, audible et visible de tous. De plus, ce qui est tout aussi important, Jésus nous a mis en garde contre de fausses interprétations. Il est clair qu'il savait que l'erreur régnerait à ce sujet. Et c'est pourquoi la parole de Dieu exprime clairement de quelle façon il reviendra.
Pour terminer cette journée, nous avons une pensée. Si chaque jour écoulé nous rapproche du retour de Christ, il nous donne en même temps l'impression que celui-ci est de plus en plus retardée. Comment trouver un équilibre entre l'attente de ce retour et la poursuite de notre vie quotidienne?
Oui, des questions qui n'ont pas toujours de réponse, mais enfin, il est bon d'y réfléchir, bien entendu. Ceci nous amène maintenant à la journée du vendredi, le 6 mars 2009. Et pour aller plus loin, nous avons encore quelques citations à vous donner. Une première citation, extraite de la revue officielle adventiste, la revue adventiste, du 11 mars 1890. « Pendant les premières années de l'Église adventiste, un grand nombre de nos pionniers ont cessé de présenter la loi de façon équilibrée. C'est pourquoi Ellen White a écrit en 1890 « En tant que peuple, nous avons prêché la loi au point de devenir aussi desséchés que les collines de Gilboa qui ne recevaient ni rosée ni pluie. Le Christ au cœur de la loi, voilà ce que nous devons prêcher. »
C'est exactement ce qu'ont fait E.J. Wagoner et A.T. Jones à la session de la Conférence générale de Minneapolis en 1888. Ils ont eu à cœur dans leur message d'affirmer qu'une foi vivante dans l'agneau de Dieu, dont le sang a été versé sur la croix du calvaire pour expier les péchés du monde, est le seul moyen d'obtenir la justice de Dieu. Nul n'entrera dans le royaume de Dieu sans avoir revêtu la robe immaculée du Christ. Or cette robe ne s'achète ni avec de l'argent, ni avec de l'or, ni avec de bonnes œuvres.
Ce message était un vibrant appel à faire du Christ et de sa justice le centre de notre vie et de nos prédications. Il insistait sur l'importance d'expérimenter personnellement la justice de la foi plutôt que d'en rester à une simple théorie. Et quelques pensées à méditer maintenant.
Donc existe-t-il un enseignement quelconque de l'Église adventiste du septième jour qui ne soit basé sur notre compréhension de la Bible ? En d'autres termes, parmi ces doctrines, y en a-t-il qui viennent d'Ellen White plutôt que de la Bible? Tout en croyant au don de la prophétie, pourquoi devons-nous nous assurer que nous tirerons tous nos enseignements uniquement de la Bible?
Quels problèmes surgissent lorsque, pour la mise au point de nos doctrines, nous nous appuyons sur Ellen White? Et d'un autre côté, en quoi celle-ci nous aide-t-elle puissamment à clarifier et à comprendre les doctrines bibliques?
Réfléchissons au fait qu'en observant le sabbat, nous exprimons notre repos en Christ, en ce sens que notre salut se fonde sur les œuvres du Christ, en notre faveur et non sur les nôtres. Cela ne répond-il pas à l'accusation fallacieuse selon laquelle observer le sabbat revient à nier la bonne nouvelle de la grâce divine?
Même ceux qui critiquent Ellen White admettent qu'elle a joué un rôle important en préservant l'Église adventiste du légalisme pour la rapprocher d'une vision du salut davantage centrée sur la croix. Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette semaine. Nous aurons le plaisir de retrouver nos auditeurs la semaine prochaine pour une nouvelle étude et vous disons donc au revoir.
Au revoir.
Et à bientôt.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.